Alors, si vous voulez, monsieur, on va aller dans Job 24, tout le chapitre. Chapitre 1, chapitre 24, versets 1 à 25. Pourquoi le Tout-Puissant ne met-il pas des temps en réserve et pourquoi ceux qui le connaissent ne voient-ils pas ses jours? On déplace les bornes, on vote des troupeaux et on les fait paître. On enlève l'âne de l'orphelin. On prend pour gage le bœuf de la veuve. On repousse du chemin les indigents. On force tous les malheureux du pays à se cacher. Et voici, comme les ânes sauvages du désert, ils sortent le matin pour chercher de la nourriture. Ils n'ont que le désert pour trouver le pain de leurs enfants. Ils coupent le fourrage qui reste dans les champs. Ils grappillent dans la vigne de l'impie. Ils passent la nuit dans la nudité, sans vêtements, sans couverture contre le froid. Ils sont percés par la pluie des montagnes et ils embrassent les rochers comme unique refuge. On arrache l'orphelin à la mamelle, on prend des gages sur le pauvre, ils vont tout nus, sans vêtements, ils sont affamés et ils portent les gerbes. Dans les enclos de l'impie, ils font de l'huile, ils foulent le pressoir, ils ont soif. Dans les villes s'exhalent les soupirs des mourants, l'âme des blessés jette des cris, et Dieu ne prend pas garde à ses infamies. D'autres sont ennemis de la lumière, ils n'en connaissent pas les voies, ils n'en pratiquent pas les sentiers. L'assassin se lève au point du jour, tue le pauvre et l'indigent, et il dérobe pendant la nuit. L'œil de l'adultère épie le crépuscule. « Personne ne me verra, » dit-il, et il met un voile sur sa figure. La nuit, il force les maisons. Le jour, ils se tiennent enfermés. Ils ne connaissent pas la lumière. Pour eux, le matin, c'est l'ombre de la mort. Ils en éprouvent toutes les terreurs. Et quoi? L'impie est d'un poids léger sur la face des eaux. Il n'a sur la terre qu'une part maudite. Il ne prend jamais le chemin des vignes. Comme la sécheresse et la chaleur absorbent les eaux de la neige, ainsi le séjour des morts engloutit ceux qui pêchent. Quoi? Le sein maternel l'oublie, les vers en font leur délice, on ne se souvient plus de lui, l'impie est brisé comme un arbre, lui qui dépouille la femme stérile et sans enfant, lui qui ne répand aucun bienfait sur la veuve. Non, Dieu, par sa force, prolonge les jours des violents, et les voilà debout quand ils désespéraient de la vie. Il leur donne de la sécurité et de la confiance. Il a les regards sur leur voie. Ils se sont élevés et en un instant, ils ne sont plus. Ils tombent, ils meurent comme tous les hommes. Ils sont coupés comme la tête des épis. S'il n'en est pas ainsi, qui me démentira? Qui réduira mes paroles à néant? Alors, on va demander la bénédiction du Seigneur pour comprendre sa parole. Seigneur, nous sommes assemblés en ton nom, nous sommes tes enfants. Nous t'aimons et nous aimons aussi ta parole parce qu'elle a tellement de principes à nous enseigner pour les mettre en pratique dans notre vie de tous les jours. Permets, Seigneur, qu'on soit ce matin dans un état d'esprit, étant pleinement conscient que c'est toi qui parles et que tu veux nous apprendre quelque chose à nous, à chacun en particulier, de manière à ce qu'on on devienne meilleur et que toutes ces choses contribuent à ta plus grande gloire. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Alors, j'ai intitulé le message d'aujourd'hui, « Job exige une réponse sur l'apparente impunité des méchants ». Là, on va regarder dans les versets 1 à 12, l'impunité démontrée. Alors, l'impunité, ça veut dire que peu importe ce que les gens font, ils paraissent ils s'en tirent tout le temps. On parle d'immunité, pas d'immunité, mais d'impunité. L'impunité, c'est toujours s'en sortir, peu importe ce qu'on fait. Alors, l'impunité démontrée, versets 1 à 12, l'impunité qu'on pourrait dire déboulonnée, c'est un peu comme une statue qui est boulonnée. Quand on enlève les boulons, choum, ça tombe. On va voir aussi l'impunité dénigrée, versets 18 à 25. On rappelle qu'on était dans les trois cycles de discussion. Alors, les trois amis de Job, un après l'autre, après que Job a eu ses grandes épreuves, sont venus un en arrière de l'autre pour tenter de le consoler mais on sait qu'ils ont été des bien piètres consolateurs à cause du fait qu'ils étaient eux-mêmes enfermés dans leur système théologique d'explication que si tu pèches, t'es puni, puis si tu agis bien, t'es récompensé par Dieu. Maintenant, on sait que parfois, parfois Dieu permet que ça fonctionne comme ça, mais pas toujours. Alors, leurs principales erreurs à ces trois amis-là de Job, ça a été qu'ils ont eu toutes les trois la même philosophie. Ils ont toujours accusé Job de vivre dans le péché, d'être hypocrite, et c'était ce qui causait la cause, ce qui causait, c'est-à-dire ces graves épreuves, d'avoir tout perdu, d'avoir été rendu malade, d'avoir été a perdu ses enfants. Et c'est bien. Quand on veut apprécier le chapitre 24, il faut reculer au chapitre 22. Parce que, dans le fond, on est encore dans la réponse que Job donne à Éliphaz. Mais Éliphaz, si on veut apprécier ce qu'il est en train de dire ici, il faut se souvenir de qu'est-ce qu'Éliphaz avait dit à Job dans le chapitre 22 pour qu'on puisse voir que, dans le fond, il répond à ces gens-là. Il y a quelque chose qu'il veut dire à Éliphaz et à ses deux autres amis-là. Alors, dans le chapitre 22, Éliphaz avait eu un raisonnement, qu'on pourrait dire fallacieux, d'un raisonnement faux, et il voulait réprimander Job parce que Job affirmait qu'il était intègre et qu'il n'avait pas dévié des voies divines. Et pour illustrer son propos, il avait voulu accuser Job, mais sans preuve, que Job était un grand méchant et qu'il avait fait de grands péchés. Et là, il en avait énuméré toute une série, mais c'était tout basé sur un raisonnement. Si t'es comme ça, c'est parce que t'as fait des grands péchés. Et là, il énumérait des péchés, mais c'est comme il lui attribuait les péchés, mais sans avoir aucune preuve. Et il en avait nommé plusieurs dans le chapitre 22. Extorsion. L'extorsion, c'est quand tu retires des biens à quelqu'un par la force. Et après ça, il l'avait accusé d'être cruel envers les veuves, envers les orphelins, envers ses serviteurs. Il l'avait accusé d'être inhospitalier. Et dans la culture orientale, l'hospitalité, c'est pas quelque chose... C'est pas équivalent, disons, de nos jours. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Il n'y avait pas d'hôtel. Et c'était vraiment quelque chose qu'on demandait aux croyants, que quand il y avait des gens qui se déplaçaient, d'être bon envers eux, les accueillir, leur donner un gîte, leur donner à manger. Souvent, on va parler de se laver les pieds. Pourquoi ils se lavaient les pieds? Parce qu'ils marchaient avec des sandales et ils marchaient dans le sable chaud. Et quand tu as marché longtemps dans le sable chaud, puis tu te mets deux pieds dans l'eau froide, ça fait du bien. Alors, ça faisait partie de l'ensemble de l'hospitalité. Et il l'avait aussi accusé d'être un dictateur qui était oppressant et qui était impitoyable. Est-ce que c'était le genre de vie que Job avait mis dans sa vie? Aucunement. Il avait aussi accusé Job de ne pas connaître les attributs divins et sa souveraineté. Et il l'avait accusé aussi de ne pas connaître que Dieu, la suprématie de Dieu dans toutes choses. Que Dieu est le grand maître de toutes choses. C'est comme s'il lui disait, tu nies que Dieu est le souverain. Et il l'avait même accusé que Job connaissait pas ce que c'était l'omniprésence et que Job connaissait pas ce que c'était l'omniscience. Alors, il avait affirmé que Job refusait les jugements de Dieu, qu'il les refusait, mais de façon volontaire. C'est comme s'il dit, Dieu t'envoie des jugements, Dieu veut te corriger, mais toi, tu les refuses systématiquement. Alors, dans leur acharnement, les trois amis, et Éliphaz en particulier, ils voulaient conserver absolument leur vision théologique. Et c'était bien simple, leur vision théologique. C'est que si tu pèches, t'es puni. Puis si tu mènes une bonne vie. En gros, c'est vrai. Mais parfois, Dieu permet que des méchants mènent une vie super, comme on pourrait dire... super bien engraissés et qui ne sont pas nécessairement, c'est pas toujours parce que quelqu'un a mal agi. Alors, il lui avait fait miroiter qu'il y avait des fruits qui était conditionnel à la repentance. Il lui avait dit, si tu te repens, si tu t'éloignes de tes péchés, tu vas revenir dans tes voies, Dieu va te redonner tes biens. Alors, il lui avait dit aussi qu'il retrouverait ses délices en Dieu, qu'il aurait une vie de prière bénie, qu'il aurait du succès dans ses entreprises et qu'il aurait du réconfort et de l'utilité dans la vie des autres. Si vous retournez dans le chapitre 22, vous allez voir que tout est là. C'est ça qu'Eliphaz avait dit. Alors, si on regarde l'ensemble des interventions des trois amis de Job, quand vous lisez toutes les interventions des trois amis, est-ce qu'on peut dire que tout ce qu'ils disent est faux? Non. Mais est-ce qu'on peut dire que tout ce qu'ils disent est universel? C'est là l'affaire. C'est que ce qu'ils disaient n'était pas nécessairement toujours faux, mais ce n'est pas universel. C'est important, quand on lit le livre de Job, de voir le jugement que Dieu portait sur les tentatives de consolation des trois amis. On l'a dans Job 42. Je le répète souvent, à chaque semaine, parce qu'il faut le garder à l'esprit pour savoir que ce qu'ils disent, ce n'est pas toujours faux, mais Dieu n'approuve pas ce qu'ils disent parce qu'ils ont oublié que Dieu peut éprouver pour d'autres raisons qu'une vie de péché dans la constance. Alors, Dieu avait dit au plus vieux, encore là, dans Job 42, verset 7, il s'adresse à Eliphaz en premier. Il dit, après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, il dit à Eliphaz de Téman, « Ma colère est enflammée contre toi. » Je ne voudrais pas entendre ces paroles-là dire « Dieu, ma colère est enflammée contre Marcel. » Je n'aimerais pas s'entendre ça. Mais c'est ça qu'il entend. Il dit, ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis. Donc, autrement dit, le jugement de Dieu sur les tentatives de consolation des trois amis, c'est Dieu dit, c'est un beau gros zéro. Parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Voyez-vous, ici, le Seigneur fait une œuvre de miséricorde dans le jugement que Job fait, parce que on sait que Job n'a pas toujours dit des choses intelligentes là dans ses réponses. Des fois, il a dit des choses qui pas trop, il accusait Dieu de certaines choses, de pas répondre, de s'éloigner, de cacher sa face et de bien d'autres choses qui étaient jusqu'à un certain point vraies. Mais Dieu dit quand même ici qu'il a parlé, parce qu'il dit car que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Alors Dieu reconnaît que à la fin, après que Dieu lui a adressé des questions. Ce qui est le fun dans le livre de Job, c'est que quand les trois amis ont fini, puis que l'autre est venu, Élihu, il est venu mettre son petit grain de sel, le plus jeune, le quatrième, là, Dieu dit, il pose des questions. On se rapportait à dire, vu qu'il y a eu beaucoup de questions qui ont été soulevées par Job, on se rapportait à penser, maintenant, Dieu va répondre à Job pourquoi il a envoyé des épreuves. C'est ça qu'il a fait? Non. Dieu, il a juste posé des questions à Job. Est-ce que tu étais là quand j'ai créé? Est-ce que tu étais là? Est-ce que si? Est-ce que ça? Est-ce que ça? Et, autrement dit, la réponse que Job a, c'est Dieu lui pose des questions. Et là, à force de se faire poser des questions, puis de se rendre compte qu'il ne comprend rien aux voix de Dieu, il va reconnaître qu'il est un pécheur, et c'est ça que Dieu dit qui est bon. Parce qu'il dit, lui a parlé de moi avec droiture, mais après qu'il a été humilié, après qu'il a eu compris le sens de tout ça, il a parlé avec droiture. Alors, on a vu dans les chapitres précédents que les trois amis de Job ont toujours accusé Job d'être un méchant, d'être un hypocrite, d'être un grand pécheur. Job, lui, pour sa part, avait toujours essayé de démontrer son innocence et son intégrité. Est-ce que les trois amis de Job l'ont cru? Non. Il n'y a rien de plus souffrant pour un chrétien d'être accusé faussement. Même si tu dis la vérité à ceux qui t'attaquent et qui ne te croient pas, ça doit être une expérience assez éprouvante. Vous essayerez ça un moment donné si jamais des chrétiens vous accusent. Puis là, tu dis, ben là, écoute, je vais te la dire la vérité, mais ouvre tes deux oreilles, puis écoute bien ce que je vais te dire là. Puis là, tu lui dis toute la vérité, puis à la fin, les personnes... Je te crée pas. Fait que ça sera pas trop, trop agréable d'entendre ça. Hein? Alors, on va regarder... Maintenant, ce que Job essaye de faire, c'est de prouver son innocence, mais en utilisant une tactique. Et la tactique est la suivante. Si je réussis à démontrer aux trois amis que les méchants sont, ils vivent impunément dans le mal, continuellement, puis que Dieu ne les juge pas, peut-être ça va ébranler leur jugement de dire que moi je vis dans le péché alors que c'est pas vrai. C'est comme il a voulu leur démontrer que je pense que vous n'avez pas très bien observé ce qui se passe autour de vous. Regardez, là, puis il se passe plein de mal, il y a plein de méchants qui agissent de même de façon constante, et est-ce que Dieu juge toujours le méchant? C'est ça qui veut leur amener là, à détruire leur pensée, de penser qu'ils ont toujours raison, que le mal, que si tu fais le mal, tu as toujours une punition de Dieu. Il va dire, regarde, il y en a plein autour de vous autres qui font le mal, puis que Dieu les juge même pas. C'est à quoi le but? Le but ultime, c'était de briser le raisonnement des trois amis. Alors, quand on dit l'impunité démontrée, dans les versets 1 à 12, c'est qu'il va vouloir montrer qu'il y a plein de méchants autour de lui, puis que l'impunité, ça veut dire que Dieu ne leur demande pas des comptes. Regarde, regarde! Alors, Job veut prouver à Eliphaz que nous ne pouvons pas toujours comprendre les voies providentielles de Dieu. Je dirais que la principale... Moi, la manière que je comprends Job, à venir chez l'heure rituelle, c'est peut-être justement les voies providentielles de Dieu. Est-ce que l'homme peut toujours expliquer les choses? On ne peut pas toujours expliquer les choses. L'erreur des trois amis de Job, c'est que nous, on le sait pourquoi t'es éprouvé. Et il l'accuse, et il l'accuse, et il l'accuse. Mais quand on lit le livre de Job, si on lit ça, puis on lit juste une histoire, on se trompe beaucoup. Il ne faut pas lire le livre de Job et de lire juste une histoire. Il faut appliquer les leçons que Dieu nous montre là-dedans. Est-ce que nous, on peut toujours expliquer pourquoi Dieu nous amène de la souffrance et des épreuves dans nos vies? Il faut s'habituer à dire, je ne sais pas pourquoi Dieu m'envoie ça. Peut-être qu'il peut te l'envoyer comme une punition pour un péché, comme une correction, mais pas nécessairement. Alors, on va regarder que beaucoup de personnes sont méchantes autour de lui, et le mot-clé dans ce que je vais dire, c'est qu'il semble jouir de l'impunité. Alors, autrement dit, regardez autour de vous, promenez-vous, même Job les avait déjà dit, promenez-vous, puis si vous allez voyager, vous allez en voir toutes sortes d'injustices, de personnes qui sont méchantes, qui vivent dans la prospérité, dans la santé, qui ont des enfants, et tout cela, puis ça va très bien dans leur vie. Est-ce que nous, aujourd'hui, on ne voit pas la même chose? On en voit plein de monde qui ont volé, qui sont aujourd'hui une classe sociale très élevée, qui se promènent avec des Mercedes, qui ont des maisons de 2-3 millions, puis une maison à l'Europe, une maison ici, une maison là, un gros bateau, un paquebot. Mais cet argent-là, ils l'ont pris où? Alors, c'est ça. On voit autour de nous que Dieu permet parfois que ces personnes-là soient jugées temporellement sur la terre, mais pas toujours. Parce que si tu dis toujours, ça impliquait qu'il avait raison en disant que Job souffrait à cause des péchés qu'il avait faits. Alors, les versets 1 à 4, il va dire, ces personnes-là, les méchants, sont violents, mais regarde, Dieu ne les punit pas toujours. Pourquoi le Tout-Puissant ne met-il pas des temps en réserve? Et pourquoi ceux qui le connaissent ne voient-ils pas ses jours? C'est vraiment une expression qui veut dire que Dieu n'amène pas nécessairement en jugement maintenant, comme ils disent en anglais, here and now. Ils font des péchés, mais Dieu ne les emmène pas en jugement. Puis c'est ça, qu'il pose la question. Pourquoi le Tout-Puissant ne met-il pas des temps en réserve? C'est justement une expression qui veut dire pourquoi Dieu ne les appelle-t-il pas en jugement maintenant? Après ça, il dit, on déplace les bornes. Là, il va donner des démonstrations. Il va énumérer des choses que ces méchants-là faisaient à l'époque. Déplacer une borne, aujourd'hui, quand on achète un terrain, bien entendu, on appelle l'arpenteur, ils mettent des bornes pour nous montrer, bon, là, ton terrain commence là, puis finit là. Puis... Des bornes, c'est, autrement dit, une mesure pour assurer que tu en as pour ton argent, tu n'as pas plus, tu n'as pas moins. Déplacer une borne, si vous êtes à cette époque-là, je ne sais pas comment ils faisaient, peut-être ils mettaient un piquet, quelque chose. Mais si tu déplaçais une borne, toi, tu disais, ah, ben, va, je vais allonger mon terrain de 15 pieds. Prenant la borne, t'as déplacé. Qu'est-ce que c'est? C'est une malhonnêteté. Il est en train de dire que les méchants font des choses malhonnêtes en tout temps, en s'appropriant des choses qui ne leur appartiennent pas. On vole des troupeaux. Il est en train de dire qu'il y a des personnes qui volent les troupeaux des autres. Après ça, il dit on les fait paître. Autrement dit, tu t'appropries le bien d'autrui, et après ça, tu t'en sers pour toi-même. Verset 3, on enlève l'âme de l'orphelin. C'est pas une... Job est en train de dire, j'ai vu, et on peut observer encore aujourd'hui, qu'il y a des méchants qui vont prendre l'âme de l'orphelin. Autrement dit, quand tu es rendu orphelin, il n'y a pas grand-chose avec quoi tu peux gagner ta vie. Là. Tu peux transporter tes choses. C'est comme, tu vas lui enlever même l'essentiel. Et après, il dit, on prend pour gage le bœuf de la beuve. La veuve, elle aussi, son bœuf, c'était son moyen de gagner sa croûte. Et s'il y avait une petite dette, ils n'hésitaient pas, les méchants, à dire, on te l'enlève, ton bœuf, arrange-toi avec tes troupes. Puis dans ce temps-là, il n'avait pas de bien-être social. Ça fait que si tu enlevais le bœuf et l'âne à des veufs et à des orphelins, c'était comme leur couper l'herbe sous le pied. Tu vois, tu vas en avoir des problèmes, tu vas en avoir un gros lot. Verset 4. On repousse du chemin les indigents, on force tous les malheureux du pays à se cacher. C'est quoi l'idée en arrêt de ça? Je ne sais pas si vous vous souvenez quand il y a eu l'Expo 67 à Montréal. Il y avait des choses laides dans la ville. Hein? Il y avait des robineux, il y avait des maisons tout croches, sales un peu, qui étaient en décrépitude. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, il avait fait des gros murs en couleur. C'était comme une façon de dire, nous, on cache notre misère. C'est ça qu'il est en train de dire dans le verset 4, on repousse du chemin les indigents. On ne veut pas les voir. C'est pas beau. Disons, on force tous les malheureux du pays à se cacher. C'est un peu ça qu'on fait aussi, même dans la société moderne, n'est-ce pas ce qu'on fait? On parle d'une... Je pense, si je me souviens bien, là, j'espère que je n'avance pas un chiffre là, trop grand, mais il me semble que c'est quelque chose comme 20 000, si c'est pas plus, indigents à Montréal, des sans-abri. C'est énorme! C'est la moitié de la ville de Rouyn-Noranda qui sont des gens qui vivent dans la rue. Et il y en a actuellement qui vivent là, des 40 sous zéro, enveloppés dans des boîtes de carton. On ne veut pas les voir. La société ne veut pas les voir. Même s'ils ont de l'argent pour plein de choses inutiles complètement, mais on n'a jamais d'argent pour les êtres humains, on n'a jamais de l'argent pour la misère humaine. Bien sûr, on va se défendre, bien c'est de leur faute, c'est parce qu'ils ont fait, c'est un choix qu'ils ont fait. Il y a un peu de vérité là-dedans, mais aussi un grave péché social de laisser ces gens-là, alors que nous, on nage dans la richesse. Mais faut prendre la situation de l'époque, puis regarder si on a l'équivalent aujourd'hui. Nous aussi, on en voit des choses semblables à ça. Alors, le verset 1 indique que Job ne comprend pas pourquoi Dieu, qui dirige le gouvernement du monde, ne manifeste pas toujours son déplaisir face aux actions mauvaises des méchants. Autrement dit, sa question, c'est pourquoi Dieu laisse-t-il faire tout ça? Vous êtes-vous déjà posé cette question-là? Pourquoi Dieu laisse faire tout ce qu'on voit autour de nous autres? Le mal, la souffrance, la douleur. Et ce que ça a pour effet, c'est que ça le rend perplexe. Quand on est perplexe, c'est quoi qu'on fait? On ne comprend pas. Je sais que Dieu existe, Mais j'ai de la misère à concilier le fait que je sais qu'il existe, qu'il est bon, qu'il est ci, qu'il est ça, qu'il est ça, avec ce que je vois. Avez-vous déjà été perplexe? Moi, j'ai déjà été perplexe, puis je suis presque sûr que vous l'avez été vous aussi. Mais c'est ça que Job. Il savait que Dieu est bon, il savait que Dieu est miséricordieux, il savait que Dieu est gracieux, il savait que Dieu est ci et ça et ça. Il mettait la liste longue, tous les attributs de Dieu. Et il voyait plein de choses qui se passaient autour de lui, puis il ne comprenait pas pourquoi Dieu n'agit pas là, pour les punir là. Alors, la liste des mauvaises actions est pourtant importante. Verset 2, le vol et la fraude. Verset 3, l'oppression et la cruauté envers les défavorisés de la société, les orphelins et les veuves. Verset 4, le mépris des pauvres et des malheureux. Voyez-vous, juste dans 4 versets, il vient d'énumérer, il dit, voici, regarde autour de toi, tu vas en avoir plein d'injustices. Puis toi aussi, tu vas te poser des questions aux amis. Comment ça se fait que Dieu ne juge pas ces choses-là qui sont méchantes maintenant? Verset 5 à 8, là, il veut mettre l'accent sur qu'est-ce que ces gestes-là vont générer dans la vie des gens. Verset 5 à 8. Et voici comme les âmes sauvages du désert, ils sortent le matin pour chercher de la nourriture. Ils n'ont que le désert pour trouver le pain de leurs enfants. Verset 6, ils coupent le fourrage qui reste dans les champs, ils grappillent dans la vigne de l'impie, ils passent la nuit dans la nudité sans vêtements. Même en Orient, il semble que de jour, il fasse très chaud, mais la nuit, la baisse de température est énorme. Et qu'est-ce qu'ils disent de lui? Ils disent des gens qui sont exploités comme ça par les méchants, ils passent la nuit dans la nudité sans vêtements, sans couverture contre le froid. Ils sont percés par la pluie des montagnes et ils embrassent les rochers comme unique refuge. Autrement dit, ils en étaient réduits à vivre dans des grottes. Pas rien se mettre sur le dos, tellement l'exploitation est grande. Quand l'exploitation est grande au point que tu es prêt à enlever les vêtements de quelqu'un sur son dos, puis même pas y laisser une couverture, c'est à pire qu'aujourd'hui. C'est à pire qu'aujourd'hui. Lorsque les hommes sont dominés par les méchants, ils sont réduits à la plus profonde misère, comme on voit dans le texte, à la faim, à la souffrance, à l'indigence et à la mendicité. Qu'est-il? La chanson « Voler, c'est pas beau, mais pas capable de demander la charité ». Qu'est-il? C'est pas drôle. Des fois... Pour nous faire goûter un petit peu ce que ça serait, il faudrait qu'on nous emmène à Montréal, sur le coin d'une rue, qu'ils nous habillent comme un vrai guenillou, puis qu'ils nous disent « Va faire un petit peu de squeegee, là. Tu vas comprendre c'est quoi qu'a été. Tu vas comprendre comment tu es reçu par les gens quand tu quittes, etc. » Et dans les versets 9 à 12, il va surtout mettre l'accent sur leur tyrannie. Il dit, verset 24, 9 à 12, « On arrache l'orphelin à la mamelle. » Autrement dit, quand une femme était veuve, puis qu'elle avait un enfant, puis qu'elle avait des dettes, on pouvait arracher l'enfant d'après sa mère pour qu'il devienne un esclave. On arrache l'orphelin à la mamelle, on prend des gages sur le pauvre. J'ai déjà vu des films, à un moment donné, dans le sud, dans différents endroits de la Terre, où on fait travailler les gens. Et on dit qu'on leur donne des biens pour compenser pour leur travail, mais les biens qu'on leur donne, on leur vend ça à des prix de fou. On les endette, autrement dit, pour les maintenir dans la pauvreté. Ils peuvent pas s'accumuler du salaire parce que ils les maintiennent dans un genre d'écrasement et de pauvreté et d'indigence constante. C'est ça qu'il est en train de dire. On prend des gages sur le pauvre. Il est déjà pauvre. Un gage, autrement dit, c'est quelque chose advenant que tu ne me payes pas. Un gage. Fait que même sur le pauvre, on ramasse son bien quand même pour garantir son prêt. Ils vont tout nus. Hey, on ne rit plus, là. Ils vont tout nus, sans vêtements, ils sont affamés et ils portent des gerbes. Autrement dit, on les fait travailler comme des esclaves, on ne leur donne pas grand-chose pour manger ni pour se couvrir. Dans les enclos de l'impie, ils font de l'huile. Les enclos de l'impie, ça, c'était les riches de l'époque. Ils font de l'huile, ça veut dire qu'ils utilisaient pour faire le travail difficile. Ils foulent le pressoir, ils ont soif. Autrement dit, t'es en train de dire que dans le traitement qu'ils leur donnaient, quand ils travaillaient pour eux, c'était dur, c'était impitoyable. Ils ont soif, ils ne donnent pas à boire. Dans les villes, s'exhalent les soupirs des mourants. Si on veut voir ça, là, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vu des reportages sur celle qu'on appelait Mère Teresa, là, au Rhin, dans la capitale, je pense que c'était à Calcutta. Quand on dit « Dans les villes s'exhalent les soupirs des mourants ». Moi, j'ai vu ça à un moment donné, mais c'est inimaginable. On est au 20e, 21e siècle, de voir du monde couché dans la rue, puis il n'y a plus personne qui s'en occupe, puis les rats sont en train de mourir vivants. Ben, il est en train de dire qu'à cette époque-là, ce qu'on voit encore aujourd'hui, ça existait encore à l'époque. Dans les villes s'exhalent les soupirs des mourants. Autrement dit, le monde mourait de misère, puis il n'y a pas personne qui s'en préoccupait. L'âme des blessés jette des cris. Autrement dit, il est en train de dire qu'il y avait des gens. Je ne sais pas si vous avez vu le reportage sur... Haïti, récemment. On donnait et il nous montre que durant... Quand les murs de la ville ont tombé à cause de la tempête, il y a beaucoup de gens qui ont été estropiés, les jambes coupées, les pieds. Et ils se promènent aujourd'hui en chaise roulante, tout ça. Puis ils disaient que l'État ne les aide pas du tout. État, zéro aide. Imaginez-vous, tu as deux jambes coupées et il n'y a personne qui t'aide. Qu'est-ce que tu fais? L'âme des blessés jette des cris. Alors, on pourrait dire l'âme des blessés de ce pays-là, qui ont été fortement, jette des cris puis personne ne s'en occupe. Et, vous regardez bien comment Job finit la première section. Et Dieu ne prend pas garde à ses infamies. Une infamie, c'est quelque chose qui te fait lever le cœur. Une écœurantie, en québécois. C'est vraiment écœurant tout ce que tu peux observer autour de toi. Puis, il est en train de dire, tant que je vous disais tantôt que Job n'a pas toujours dit des choses parfaitement intelligentes, ici, là, il a dit une chose que je suis sûr qu'il le regrettait après. Dieu ne prend pas garde à ses infamies. Ce qu'il aurait dû dire... C'est qu'il semble, il me semble que Dieu ne prend pas garde. Est-ce que Dieu prend garde à chacun des gestes des êtres humains méchants? Mais bien entendu, il va le reconnaître plus tard. Mais pour le moment, il dit, regarde tout ce qui se fait, là. Puis il dit, il semble, il dit pas il semble, il dit, et Dieu ne prend pas garde à ses infamies. Autrement dit, sur la terre, peu importe la méchanceté que les hommes vont faire, Dieu... Il ne borde pas avec ça. Il n'a pas de temps à parler avec ça. C'est un peu ça qu'il dit. Là. Alors, la convoitise des hommes les amène, ces hommes-là, à exploiter honteusement les plus démunis et les plus faibles de la société. Est-ce que ça existe encore aujourd'hui, ça? Bien entendu. Cette exploitation s'exprime par la réduction à l'esclavage le plus abject, au traitement cruel et inhumain, à l'indifférence et à la froideur face au hurlement des agonisants et des blessés. Si vous iriez aux Indes aujourd'hui, moi, j'ai jamais été aux Indes, mais le petit peu que j'ai vu sur des films, ça me suffit. Vous dire, là-bas, là, c'est pas ici. Ici, il y a une classe moyenne, là-bas, il n'y en a pas. Ou tu es hyper riche, ou tu crèves dans la rue. Puis si tu crèves dans la rue, attends-toi pas, tu vas avoir de la pitié et de l'aide de qui que ce soit. Alors, Job, il termine ses observations en mentionnant que l'Éternel ne semble pas se préoccuper de ses énormes péchés. Alors, il est vraiment en train de démontrer à Eliphaz, « Gad, il s'en passe bien des choses sur la terre, puis Dieu s'en occupe même pas. » Alors, après ça, dans le verset 13 à 17, je l'ai appelé « l'impunité déboulonnée ». C'est quoi déboulonner? Si vous prenez une énorme statue, puis que sur un socle de ciment, puis vous y mettez pas des boulons, le vent va pogner dedans, va tomber. Des gros boulons qui dépassent. Mais si vous déboulonnez quelque chose qui est attaché, qui est maintenu en place, la solidité est assurée par des boulons, puis vous déboulonnez, qu'est-ce qui arrive? Pouf, ça tombe. Alors ici, il va montrer que l'impunité, qui semble que Dieu s'en préoccupe pas, à fin de compte, oui, Dieu va s'en préoccuper, mais à son temps, sa manière. Si on regarde le sens du mot déboulonner dans le dictionnaire, nous apprenons qu'au sens figuré, le mot signifie Détruire le prestige de quelqu'un, le déposséder de sa place. Par exemple, dans le dictionnaire Robert, l'exemple qu'il nous donne, dit « déboulonner un homme public ». Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand il y a eu en Russie, quand les grands dictateurs, voyons, après la guerre, là, comment il s'appelait donc?
Staline.
Staline était l'homme fort de l'URSS, mais à partir du moment qu'il est mort, ça n'a pas été bien ben long, là, dans les jours qui ont suivi, là, ils ont déboulonné sa statue. Autrement dit, ils voulaient dire ton prestige, parce que ces statues-là, ça démontre hey, l'homme fort du pays. Ils l'ont déboulonné, puis ils l'ont jeté à terre, puis là, tout le monde frappait là-dessus. C'était comme... Alors, déboulonner un homme public, ça veut dire, OK, t'as l'air bien beau, t'as l'air bien fin, t'as l'air bien prestigieux, puis t'as l'air bien riche, puis t'as l'air bien honnête, comme c'est là. Mais quand on va tout savoir sur toi, là, on va te déboulonner, puis tu vas tomber. Alors ici, on pourrait comparer la situation des méchants à une grosse statue qui serait tenue debout par des boulons. Si nous retirons graduellement ces boulons, nous arriverons à un point où la statue pourra être très facilement jetée par terre et détruite. Job veut illustrer la culpabilité des méchants en montrant que leurs actions sont toujours faites de la même manière. Regardez bien le texte, versets 13 et 14. Il veut montrer que les actions des méchants se font toujours dans les ténèbres. Dans les ténèbres, ça veut dire que les gens qui font le mal s'organisent toujours pour que ça soit caché. Le soir, la nuit, le secret. Alors, il dit dans le verset 13 et 14, « D'autres sont ennemis de la lumière. » Remarquez le nombre de fois que les allusions à la lumière dans ces passages-là. D'autres sont ennemis de la lumière. Il parle encore des méchants, là. Ils n'en connaissent pas les voies, ils n'en pratiquent pas les sentiers. L'assassin se lève au point du jour. Donc, on a le point du jour, on a la lumière. Tue le pauvre et l'indigent et dérobe pendant la nuit. Autrement dit, les êtres humains qui sont méchants ont toujours la tendance de faire les choses secrètement, pour pas que personne soit courant. Et on a des commissions Charbonneau actuellement, là. Et ça vient justement nous illustrer la vérité de ces choses-là. Les actions criminelles sont très souvent commises dans la nuit, à l'abri des regards et du jugement des hommes. Autre chose, donc ils font toujours leurs péchés dans les ténèbres. Dans le verset 15 et 16, ils font les péchés dans le secret. L'œil de l'adultère épie le crépuscule. Autrement dit, il est allé coucher avec la femme du voisin, mais c'est à la nuit. Puis quand il voit que le soleil qui est à la veille de se lever, hop, c'est le temps que je me sauve parce que vous me faites poigner. La lumière, les choses. Personne ne me verra, dit-il, et il met un voile sur sa figure. La nuit, il force les maisons. Le jour, ils se tiennent enfermés, ils ne connaissent pas la lumière. Job mentionne ici une autre caractéristique des actions criminelles et pécheresses. Elles s'exercent toujours dans le plus grand secret. Avez-vous vu la série Omerta? Omerta, ça veut dire quoi? Secret. Ça veut dire qu'il faut que tu te la fermes. Quand tu es un criminel, il faut que tu apprennes que le silence est d'or. Parce que si tu ne l'apprends pas, il y en a qui vont te l'apprendre. Alors, ils font leur péché dans le cachet, puis ils font leur péché, c'est que tu te fais pogner, tu dis rien, je sais rien, jamais rien vu, pas au courant. On a entendu ça pendant la commission Charbonneau. Il n'y a personne qui a rien vu, personne qui est au courant. C'est là qu'on voit hein, qu'il n'y a rien de changé. Cette époque-là, c'était de même, puis c'est encore de même aujourd'hui. Et autre chose que le verset 16 et 17 nous apprend, quand on parle de déboulonnage, c'est qu'il est en train de dire que ces gens-là, dans le fond, sont dans une position de faiblesse, dans une position de fragilité. Il dit dans le verset 17, « Pour eux, le matin, c'est l'ombre de la mort, ils en éprouvent toutes les terreurs. » Les criminels, je ne sais pas si vous avez déjà été en campagne, puis vous prenez une grosse pierre, puis vous l'enlevez comme ça. Toutes les petites bébites qui sont en dessous, qu'est-ce qu'ils font quand ils voient la lumière? Ils se poussent! Et c'est la même chose pour les êtres méchants. Quand tu mets la lumière sur les actions des hommes méchants, comme actuellement, on peut prendre l'exemple de la commission Charbonneau, ils n'aiment pas ça. Les petites bébites, ils sauvent partout, ils cherchent à se cacher, ils cherchent à... C'est exactement la même affaire. Hein? Alors, qu'est-ce qui caractérise ces gens-là? Ils font les choses dans le secret, ils font les choses dans les ténèbres, et ils ont constamment peur d'être découverts. Jean, chapitre 3, verset 20-21. « Car quiconque fait le mal, » ça c'est Jésus qui parle, « quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. » La personne qui est chrétienne, qui fait des bonnes actions, elle n'a pas peur que la lumière soit mise sur ce qu'il fait, parce qu'il n'y a aucune crainte de ça. Mais le méchant, il fait tout en secret, il fait tout dans la nuit, il fait tout caché, mais il n'aime pas ça qu'on mette la lumière sur ce qui se passe dans la réalité. Et 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 4 et 5, nous parle des différences entre les enfants de la lumière et les enfants des ténèbres. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Il parle des chrétiens. Vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Alors, on voit la différence. Les enfants du mal, les méchants à cette époque-là avaient tendance à se cacher. Et c'est la même chose de nos jours. Maintenant, le verset 18 à 25, on parlait d'impunité dénigrée. C'est que là, à partir de ce passage-là, Job va reconnaître qu'éventuellement, à sa manière, en son temps, Dieu va juger ces gens-là, mais sûrement. Alors, la foi de Job est cependant ici assez forte pour savoir que le jugement des méchants est inévitable. Si ce n'est pas dans ce monde, ce sera très certainement dans l'autre, et le méchant ne perd rien pour attendre, même si le Seigneur peut accorder un délai temporel au grand pécheur. Dans le fond, il est en train de parler, observe tout le mal qui se passe, ça se fait toujours de la même façon, dans le secret, dans le silence, et ils sont toujours dans la crainte de se faire prendre, mais il dit le jugement, d'un autre côté, est sûr qu'il va arriver. Si ce n'est pas là, pour être plus tard. Versets 18 à 21. « Et quoi, l'impie n'a un poids léger sur la face des eaux, il n'a sur la terre qu'une part maudite, il ne prend jamais le chemin des vignes. Comme la sécheresse et la chaleur absorbent les eaux de la neige, ainsi le séjour des morts engloutit ceux qui pêchent. » Voyez-vous, il fait déjà allusion qu'éventuellement, ils vont passer à la même place que les autres, puis ils vont avoir le jugement. Verset 20, « Quoi, le sein maternel l'oublie, les vers en font leur délice, on ne se souvient plus de lui, l'impie est brisé comme un arbre. » C'est en train de dire, c'est temporaire, éventuellement, il va être renversé comme quand un arbre tombe. « Et lui qui dépouille la femme stérile et sans enfant, lui qui ne répand aucun bienfait sur la veuve. » Alors, l'apparente victoire des méchants, c'est fragile. C'est exactement comme un château de cartes. Mets tes petites cartes, là, deux comme ça, deux sur le dessus, puis un autre petit pignon, puis tu construis. Puis tu... Il y en a qui ont fait des châteaux, c'est haut, là. T'as vu, ça fait... Alors, c'est ça qui arrive avec les affaires des méchants. Ça a l'air bien beau, ça a l'air bien solide, ça a l'air bien sur le coup, mais c'est très fragile, ça peut s'écrouler. Oui, oui, j'écoutais récemment le Dr. Porter, je pense qu'il est... qui est actuellement dans le sud, là, puis 22 millions, semble-t-il, qui auraient détourné. Je ne peux pas porter de jugement là-dessus, je ne suis pas là, puis je suis pas au courant. Là. Mais juste pour dire, 22 millions, c'est énormément d'argent. Moi, j'ai jamais connu ça, puis je pense pas de jamais connaître ça dans ma vie non plus. Mais on se rapportait à penser l'impunité, hein? Il va toujours s'en sortir. Il y a de l'argent. Mais regardez ce qui se passe, là. Il a tout essayé de prendre des moyens pour s'en tirer. Et actuellement, le pays est en train de dire, le refuser sur toute la ligne. Il va être obligé de revenir au Canada. Sa femme a déjà été jugée pour détournement de fonds, 33 mois de prison. Alors, ces deux personnes-là étaient une secousse à Montréal. Ça devait être la crème de la société. Voyez-vous, Dieu permet. Tout ça, ça s'écroule. C'est fragile. Leur jugement est certain. les douleurs et la misère infinie de l'enfer les attendent les bras ouverts. Bien entendu, les méchants, quand on les regarde aujourd'hui, sont pleins d'argent. Ils n'arrêtent pas de faire des voyages, ils n'arrêtent pas. Et Dieu, s'il décède comme ça, là, leur sort éternel ne sera pas très enviable. Ils vont être engloutis. Alors, le brisement des méchants, comme le texte nous le dit, est soudain, sévère et imprévisible. Parce que la plupart des gens qui ont volé comme ça des grosses sommes, ils pensent qu'ils vont s'en tirer. Mais soudain, ça arrive un moment que tu n'en attends pas. Sévère, ça veut dire que quelqu'un qui a connu les grands honneurs de la haute société puis qui tombe d'échéance d'un pénitencier, il la trouve pas mal moins drôle. Alors, bien entendu, ils vont être oubliés très rapidement. Versets 22 à 24, « Mais Job reconnaît que leur jugement est certain, mais Job leur dit, fait dire à Eliphaz aussi, que parfois Dieu accorde un délai dans le jugement. C'est comme, OK, ça a l'air à bien aller ton affaire là, ça peut durer peut-être même toute ta vie, mais tu t'en tireras pas comme ça. Un jour, tu vas rendre des comptes. » Alors, dans le verset 22 à 24, « Non, Dieu, par sa force, prolonge les jours des violents et les voilà debout quand ils désespéraient de la vie. Il leur donne de la sécurité et de la confiance. Et il a les regards sur leur voie, ils se sont élevés, et en un instant, ils ne sont plus. Ils tombent, ils meurent comme tous les hommes, ils sont coupés comme la tête des épis. » Vraiment dit, il est en train de leur parler de la fragilité de toutes ces affaires-là. Il arrive souvent que Dieu retarde le jugement des méchants pour des raisons qui sont connues de lui seul et qui sont remplies de sagesse. Dans le dernier verset, c'est un verset où que Job, il se pète les bretelles un peu, parce que là, il est en train de dire, essayez de démontrer sur ce que je viens de dire dans les 24 versets précédents, si ce n'est pas vrai. Il leur dit, « S'il n'en est pas ainsi, qui me démentira? Qui réduira mes paroles à néant? » Il est en train d'établir un fait devant la face de ses consolateurs. Ça ne marche pas toujours. Vous n'êtes pas toujours, on n'est pas toujours capable d'expliquer les voies providentielles de Dieu. Bien sûr que s'ils acceptent ça, ils sont obligés de reviser leur propre position. Parce que si tu dis que les méchants peuvent vivre toute leur vie sans aucun problème et que Dieu ne les emmène pas au jugement, tu es en train de dire aussi que peut-être que ce n'est pas le jugement que j'ai, puis c'est parce que tu ne comprends pas. Fait que, dans le fond, la dernière, c'est vraiment un peu se péter les bretelles qui dit, s'il n'en est pas ainsi, qui me démentira? Autrement dit, essayez de venir me montrer si ce que je viens de dire là, c'est pas vrai. Vous qui avez voyagé, vous qui êtes des riches, vous qui connaissez comment ça marche dans l'Orient, venez me montrer que ce que je viens de dire là, c'est pas vrai. Il dit, qui réduira mes paroles à néant? Autrement dit, il est sûr de ce qui avance. Alors Job tente désespérément de troubler l'assurance d'Éliphaz et de ses trois amis, qui maintiennent que Dieu punit toujours les méchants. Est-ce que c'est le cas? Il vient de nommer un paquet de choses là, que les méchants font, puis il dit lui-même, Dieu ne semble pas vouloir les emmener en jugement. Alors il met ici, il cherche à amener une révision dans leur esprit et ce qui change de position. Il met Eliphaz au défi de lui prouver qu'il a menti et d'enlever le poids énorme de la justesse de sa démonstration que les hommes ne peuvent pas toujours comprendre les voies providentielles de Dieu, tant pour les croyants que pour les incroyants. Parce que si on voit des méchants, ils font toutes sortes de choses abominables toute leur vie, qu'on ne voit pas Dieu les emmener en jugement sur la terre, qu'est-ce que je peux comprendre là-dedans, moi? Puis si un juste, comme c'est son cas à lui, traverse des épreuves épouvantables alors qu'il ne fait pas une vie de péché, qu'est-ce que je peux comprendre là-dedans? Autrement dit, la leçon à retenir du chapitre 24, c'est que les voies providentielles de Dieu, tant pour les bons que pour les méchants, on ne peut pas toujours comprendre. C'est-tu difficile pour nous d'accepter de vivre quelque chose qu'on ne comprend pas? Très difficile. Moi, je comprends pas, puis je voudrais comprendre, je voudrais savoir pourquoi Dieu m'a envoyé ça. Bien, il te le dira pas. Parce que Dieu dit qu'il ne rend pas de compte à personne. Il n'y a pas de compte à nous rendre, surtout à nous autres, des pécheurs. Qui on est pour questionner les voies de Dieu? Quand vous allez lire Romains 9, où Paul parle de la souveraineté de Dieu dans la destinée éternelle des hommes, ce qu'il leur dit, les gens disent, « Bon, mais si Dieu est souverain, je ne suis pas coupable de ça, moi, là. » Puis là, Paul y répond, « Qui es-tu pour juger les voies de Dieu? » Il n'explique pas. Il n'explique pas pourquoi Dieu sauve certains et Dieu ne sauve pas les autres. Il dit, « Toi! » Il retourne ça par l'autre bord. « Toi, tu es en train de questionner l'Éternel. Ben, moi, je vais te retourner la page de bord. Moi, c'est toi que je questionne. Qui t'es, toi, pour questionner un être aussi parfait, aussi grand, aussi glorieux, etc. » J'ai sorti trois applications à partir du texte d'aujourd'hui. Ça peut être difficile d'observer la vie des méchants et de constater que le Seigneur ne semble pas intervenir pour les juger ou pour les punir. Nous ne devons pas, cependant, céder aux premières impressions. Le Seigneur jugera, et cela parfaitement, en son temps et à sa manière. Gardons notre sérénité et notre paix devant ce semblant d'injustice. Si on regarde la situation mondiale, on en voit un paquet de choses comme on vient de voir là. Est-ce qu'on est capable de croire que Dieu, s'il ne juge pas maintenant toutes ces choses-là, qu'un jour il va le faire? Puis il va le faire à sa manière et de façon parfaite. Il n'y a pas une petite chose de méchant que tu peux avoir faite que tu ne paieras pas pour. Alors, ça, c'est important qu'on retienne ça. Si on ne retient pas ça, à quelque part, on n'a pas compris Job. Et on ne l'étudie pas pour rien. Dieu, comme je vous ai dit au début, on lui a demandé dans ma prière, qu'on soit dans un état de réceptivité, comme si Dieu vous parlait à vous, à chacun individuellement. Parce que si on lit un livre comme Job, puis qu'on voit juste l'histoire de Job, on manque le bateau. Faut se l'appliquer à notre vie de tous les jours. Deuxième application, malgré les efforts des pécheurs de cacher leurs péchés par l'opération dans les ténèbres et dans le secret, leurs iniquités finiront par être découvertes et mises au jour. Des fois, c'est sur cette terre aussi. Les Saintes Écritures nous apprennent également qu'il n'y a pas de paix pour le méchant. Oui, il y a un verset dans Ésaïe qui dit « Il n'y a pas de paix pour le méchant ». Le méchant, là, il a fait bien du mal, il s'est caché bien ça, il a tout fait ça dans le secret. Il pense, mais à un moment donné, tout d'un coup qu'un tel parle, d'un coup, il est continuellement dans l'angoisse de se faire prendre. Ils vivent dans l'angoisse constante d'être découverts. Soyons assurés que le Seigneur jugera publiquement toutes leurs actions mauvaises, tôt ou tard. Alors même si tu les as faites dans le secret, puis personne ne les a vues, tes actions mauvaises, Dieu, quand il va le juger, là, au jugement dernier, ça va être public. Imaginez-vous. Une personne qui a fait un paquet de choses, puis ça en est toujours tiré, puis toujours. Mais là, Dieu va faire la lumière. Des livres sont ouverts, comme on dit dans l'Apocalypse. Et là, ça va être public. Comment ils s'ostineront contre Dieu? Personne ne va y croire. Puis eux-mêmes vont se fermer d'ailleurs, parce que la bouche, ils vont se clore la bouche, ils vont se fermer la bouche devant le jugement de l'Éternel. Alors, le méchant, s'il ne reçoit pas sa punition maintenant, soyons assurés que Dieu, il ne perd à rien pour attendre, Dieu va lui donner. Et troisième application, les voies providentielles de Dieu sont mystérieuses et insondables, tant pour les méchants que pour les véritables croyants. N'est-ce pas que des fois, c'est difficile à comprendre qu'est-ce que Dieu nous envoie? Très difficile à comprendre. On devient perplexe, un peu comme Job. Qu'est-ce qui nous aide à passer à travers? C'est juste notre foi en la vérité de ce que Dieu affirme. Dieu n'est pas l'auteur du mal. Dieu est bon. Dieu est miséricordieux. Puis là, il faudrait que tu prennes ta liste des attributs, puis que tu les nommes toutes, puis tu dis, dans ces actions-là, Dieu ne participe pas à cause de toutes ces choses-là. Alors, on ne comprend pas toujours. Nous ne savons jamais avec une parfaite certitude pourquoi le Seigneur agit puis pourquoi le Seigneur n'agit pas. Gardons ça à l'esprit. Adorons le Seigneur pour sa gestion parfaitement sage de son gouvernement et des vies humaines. Amen.
Amen.